On est ravi de vous accueillir dans ce nouveau programme, nouvelle émission pour l'été.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Guérad.
Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle émission Déclinaison de la librairie francophone qui vous accompagnera tout l'été. C'est le premier numéro de la librairie francophone estivale. Voici le sommaire. Et pour la première fois donc depuis la création de l'émission, la librairie francophone se décline dans une version estivale. Diffusée sur France Inter, RTS la première en Suisse, RTBF la première en Belgique, ici Radio-Canada première et RFI qui rejoint la coproduction, l'émission s'ouvre à toutes les disciplines culturelles. Nous allons vous faire voyager tout l'été à la découverte de toutes les cultures, des livres de poche, des musiciens dans notre studio, des reportages inédits dans des villes francophones du monde, des humoristes, des entretiens avec des grands auteurs et une séquence nommée le Club francophone qui donnera carte blanche aux fidèles de l'émission. Pour cette première, c'est notre chroniqueur de luxe, immortel Dany Laferrière, qui parraine pour le coup cette nouvelle séquence. Il est le rédacteur en chef de ce premier Club francophone. Bonjour Dany.
Bonjour, ça veut dire que je fais tout.
C'est exactement ça.
Je fais comme je veux.
Pas tout, mais vous êtes libre.
Libre de tout faire, oui.
Libre
comme un
de
enfant,
tout, faire.
Tout joyeux qu'on a oublié dans une confiserie.
C'est ça. Vous êtes écrivain, membre de l'Académie française et vous êtes venu avec un autre fidèle de l'émission.
Ah bien, mon frère Rodney Saint-Éloi qui dirige à Montréal les éditions Mémoires d'Encrier.
Oui. Bonjour Rodney.
Bonjour, bonjour.
Vous aussi, vous êtes un habitué. Comment ça va?
Oui, ça va bien, ça ouais. va bien. Puis là, avec vous, ici.
Exactement.
En été.
Toujours fidèle, en plein été.
En plein été.
Merci à vous d'être là tous les deux. On se retrouvera dans la troisième partie de l'émission. Le livre de poche du week-end pour lire sur la plage ou ailleurs. Ce sera avec la franco-libanaise Vénus Corrigata. Nous rendrons hommage à Gottlieb avec son dernier entretien. Et puis nous irons à Marie-Galante, dans les Antilles. À l'occasion du centenaire de la naissance de Guy Tyrolien, nous sommes allés dans sa maison, sur les hauteurs de Marie-Galante, face aux îles Saintes et à la Désirade.
La librairie francophone, estivale, Emmanuel Guérad.
Et on commence cette version estivale avec un livre de poche pour votre été. Chaque semaine, nous vous proposerons un entretien avec un auteur qui a participé à la librairie francophone, version classique. Lors de la sortie de son livre, l'écrivaine et poétesse Vénus Corrigata avait publié « La femme qui ne savait pas garder les hommes » aux éditions Mercure de France en 2015. Eh bien, ce roman vient de sortir en poche chez Folio.
Il faut écrire, c'est l'écriture qui vous fait comprendre qui vous êtes. Si je n'avais pas écrit, j'aurais continué à être quelqu'un d'enfermé en lui-même, de complètement prisonnière de ma personne. L'écriture m'a libérée.
Bonjour Vénus Corrigata.
Bonjour.
Oui, c'est votre voix, vous êtes
mais
surprise.
Oui, mais oui,
c'est vous.
Je ne m'attendais pas.
Vous êtes une grande fidèle de la librairie francophone, on vient de l'entendre. Dans ce nouveau roman, La femme qui ne savait pas garder les hommes, vous écrivez « L'écriture te sauve à chaque défaite, à chaque perte d'un être cher ». C'est ce qui vous tient, l'écriture ?
Sans l'écriture, je serais devenue folle, certainement. J'ai essayé de rapiécer ma vie à plusieurs reprises, à chaque échec. Je repartais, je me disais non, je ne peux pas baisser la garde, je dois me reprendre. Et je changeais de continent après la perte de mon premier mari, la séparation. Je me vois venir en France, refaire ma vie avec un homme extraordinaire, un chercheur scientifique, biologiste. Il élève mes enfants née du premier mariage. Il meurt au bout de 7 ans, jeune, en me laissant une enfant. Et je me crois finie à jamais. Je rencontre un homme bon, gentil, courtois, d'un certain âge. Et ma fille considère que c'est son père qui le lui a envoyé.
C'est elle qui vous le présente, oui.
Voilà, j'ai changé de continent. Je suis partie au Mexique avec cet enfant, chez cet homme magnifique, gentil, charmant, courtois, qui adorait ma fille.
Mais il a
adopté l'enfant.
Oui.
Il a aimé mes chattes, il a gardé mes chattes tout le long des 20 années où je partais partout dans le monde, même avec vous, je suis partie au Liban, on a fait le tour de Beyrouth, avec un micro, avec votre micro. Ils savaient qu'ils ne devaient pas s'attendre à de l'amour. Mais j'ai fait ce genre d'analyse après sa mort. J'aurais dû donner un peu d'affection, or je n'avais pas le temps de donner
Mais vous avez fait des choix à Vénus Corrigata.
Oui, l'écriture.
Le choix de l'écriture, de la littérature.
Il y avait toujours un livre entre moi et les autres.
Au détriment de votre vie amoureuse et de votre vie maternelle. Vous avez des regrets ou une sorte d'amertume aujourd'hui?
Oui, c'est à refaire, mais on ne se refait pas à mon âge. C'est fini maintenant. Je donnerai un peu de moi-même. Je serai plus tendre, plus disponible. Il n'y avait que cette femme qui tape à la machine toute la journée. Puis la machine a été remplacée par un ordinateur. Et puis partir, dès qu'on a un moment de libre, partir pour faire la promotion d'un livre. Il y a autre chose que l'écriture dans la vie. Il y a aussi la vie. Et quand j'ai été malheureuse pour la troisième fois endeuillée, une amie, Elisabeth Roudinesco, me dit « Écris !» On dirait qu'il n'y a que l'écriture qui est mon
rempart. Et c'est ce que vous avez fait d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a ce livre aujourd'hui. Là.
En un mois de temps, j'ai sorti avec rage, violence, tout ce qui m'a fait mal durant ma vie.
Vénus Corrigata, vous pensez que ces fantômes, ils nous empêchent de poursuivre notre vie? La culpabilité d'un bonheur possible, ça entrave tout?
Les morts sont très forts, ils s'accrochent à nous, ils nous empêchent de refaire notre vie.
Vous êtes un sacré personnage, hein, Vénus Corrigata. Vous savez vous faire désirer, vous êtes maligne. Hein. Toute votre vie, vous avez su vous faire désirer par les hommes. Vous en avez besoin des hommes, ils sont importants pour vous. Vous avouez même que c'est dans votre culture d'avoir un homme à la maison. Une femme sans homme est une maison sans toit, une fenêtre sans volet, une propriété sans clôture.
Tout à fait, je ne peux pas concevoir la vie sans homme.
C'est comme les chats, ça.
Je vais prendre un chat mâle, je crois. Maintenant que mes deux chattes sont mortes, il faut que je prenne un chat mâle. D'ailleurs, il y en a un qui vient manger chez moi, mais dès qu'il mange, il s'en va, le salaud. Il ne sait pas rester.
Oui, vous dites que les chats ne sont pas fiables.
Non, ils ne sont pas fiables. Ils
comme
sont...
les hommes
et, comme certains, pas ceux qui meurent. Ceux qui meurent sont fiables. Ils deviennent fiables. On magnifie les morts. Hmm. On leur donne une stature extraordinaire. On culpabilise. On croit qu'on ne les a pas rendus heureux. Alors qu'on a tout fait pour leur donner tout le confort possible, imaginable. Mais je crois que les hommes n'ont pas envie de confort. Dites, répondez-vous qui êtes un bel homme jeune.
Merci, Vénus.
Répondez-moi, merci Jean-Pierre.
Bon, on va terminer avec cette phrase, Vénus Corrigata. Vous écrivez dans ce livre: tout est littéraire dans ta vie. Tu acceptes volontiers une épreuve, à condition que tu puisses la transcrire. Est-ce pour cela que quand vous avez terminé un livre, vous vous sentez vulnérable?
Je me sens vulnérable, je sens que je n'existe pas, je déprime. Il faut à tout prix que je recommence un autre. C'est pourquoi je publie deux livres dans la même année.
Et vous vous sentez comment là maintenant?
Bien, là, depuis que je partage avec toi, avec les lecteurs, je me sens mieux. Vous portez avec moi mes deuils. Merci.
Et la femme qui ne savait pas garder les hommes de Vénus Corrigata est parue en poche chez Folio. Avant de partir à Marie-Galante sur les traces de Guy Tyrolien et avant d'entendre le son des Antilles comme si vous y étiez, voici Calypso Valois avec un extrait de Vis-à-vis dans la librairie francophone estivale. Calypso Valois, Vis-à-vis sur votre radio francophone.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Kérad.
On part à Marie-Galante à présent, au large de l'île de la Guadeloupe, perle des Antilles, aux plages célestes et aux champs de canne à sucre à perte de vue. Marie-Galante est aussi l'île de Guy Tyrolien, proche de Césaire et Saint-Gore. Tyrolien est un immense poète, méconnu du grand public, et pourtant, lui aussi, au même titre que ses illustres confrères, a contribué à faire émerger la négritude, puis la francophonie. Son ami et fils spirituel Max Ripon nous guide sur son île, sur les traces du poète. On pose le pied sur le sol de Marie-Galante après 45 minutes de traversée depuis le port maritime de la Guadeloupe et l'arrivée donc sur l'île de Marie-Galante avec un dégradé de bleu, le ciel bleu bien sûr, avec quelques nuages fragmentés là au-dessus de nous et puis dégradé de bleu turquoise sur la mer. Et on est sur le petit port de Marie-Galante avec quelques bateaux, une vingtaine de bateaux seulement.
Bonjour, bonjour. Comment Max Ripon, bienvenue à Marie-Galante, bienvenue sur les terres de Guy Tyrolien et de la Nienne.
Alors allons-y, on va découvrir Marie-Galante avec vous et on va surtout faire le portrait de Guy Tyrolien. Voilà. Guy Tyrolien dont c'est le 100e anniversaire de la naissance. L'année 2017, c'est l'année Tyrolien pour la Guadeloupe, mais aussi pour la métropole, pour la France dans son ensemble. Et nous allons aller sur les traces de Guy Tyrolien, car tout se passe ici à Marie-Galante.
Tout à fait, c'est-à-dire que Guy Tyrolien est curieusement, mais c'était à l'époque, est né à Pointe-à-Pitre. C'est là qu'il y avait la maternité. Mais on a beau naître quelque part et on s'enracine là où on veut. Son enracinement est à Marie-Galante, mais je suis convaincu que les premiers instants de la ville, là où on a posé ses pas, comme une tortue, on revient forcément là. Il y a une mémoire extraordinaire qui fait qu'on est de là.
Où va-t-on là, Max?
Nous allons aller vers la maison familiale où il est né, enfin, où il a grandi. Elle est construite en 1903.
Ah oui, avec quatre fenêtres encadrées de pierres de l'époque, et puis juste un seul étage. Ouais. Max Ripon, vous êtes auteur, hein, vous-même, auteur né ici à Marie-Galante, auteur de romans, de poésie, en français et en créole, et vous dites il faut de l'énergie pour comprendre Marie-Galante. Quel type d'énergie il faut?
Il faut déjà être soi-même et en paix avec soi-même. Pour rester ici et accepter le temps de l'étiage, quand on est dans le pays, on prend la cadence du pays. Et ma voiture est garée, elle n'est pas bien garée, elle ne gêne personne, elle est garée parce qu'on fait quelque chose. Tout le monde sait qu'on fait quelque chose et personne ne nous énerve.
Elle est un peu garée n'importe comment.
Enfin, elle est garée. elle est plutôt égarée dans la rue, mais en fait, personne ne nous fait la gueule, etc. Et tout. Je crois que c'est cette gentillesse-là qu'il faut qu'on arrive à préserver, que dans nos écritures, dans nos poésies, nous mettons en place, parce que nous sommes déjà porteurs de cela, de cette paix-là, donc on peut la diffuser. Nous prenons la route qui mène chez Guy Tyrolien, bordée à gauche par des flamboyants. On est dans la forêt sèche, avec des acacias, les campéchiers, et les tourterelles sont les seuls oiseaux de la région. Et on avance vers Tyrolien, et voilà, ben nous arrivons à 50 mètres de la maison Tyrolien.
Avec la mer qui est juste en face, on arrive sur une colline, et on domine tout Marie-Galante ici. Il y a un chien déjà.
Mais le chien il est poli. Regardez-moi ça.
Oh là là, oui. Alors voilà, effectivement, là on surplombe Grand-Bourg, puis toutes ces maisons, les maisons créoles hein, qui sont là typiques. On les voit d'ailleurs avec les toits blancs.
Et souvent, Guy me disait, Guy Tyrolien, que revenir ici, écrire, c'est un besoin pour compenser quelque chose. Quand il n'y a rien à compenser, on est en paix, en sérénité. Comment on ne peut que rester là contemplatif, je veux dire, hein, quand on a ça. L'horizon est déplacé. À chaque fois qu'on réfléchit, on le repousse, cet horizon-là.
Sur une grande terrasse avec des arcades, arcades blanches, une maison qui surplombe donc, cette baie de Grand-Bourg.
La jeunesse nous accueille.
Comment vas-tu? Bonjour, monsieur.
Bonjour, madame. Enchanté.
Comment vas-tu?
Ça va,
ça va bien. Ça va, je te remercie.
Voilà, j'ai amené ces intrus jusqu'à toi.
Eh bien, c'est bien.
Guy Tyrolien avait cette conscience d'ailleurs de la poésie évidemment, mais la conscience du son, celle qui fait de la poésie un modelage de la langue. Il disait que avant même la poésie, avant même le sang, c'était la musique qui l'intéressait, c'était la musique qui le portait.
Le rythme. Il en a parlé d'ailleurs, il a même fait un vers. Et mon mari, c'était un mélomane. Il aimait beaucoup la musique, notamment la musique de jazz.
Alors c'est vrai que dans ces vers, il y avait des allitérations, des assonances aussi. Par exemple, « Griot glapit ton chant strident, voici volant le cri des circoncis, la polyrythmie tendre des pilons. » Ou alors « Émaras, aussi vivace que l'acacia coriace qui pousse à Saint-Domingue », que vous connaissez par cœur.
Enfin, je connais quelques vers comme ça, ça me revient.
Alors Thérèse, Guy Tyrolien participe à l'ébullition de la négritude qui aboutit à la création de Présence africaine. Et de 1944 à 1960, il est administrateur de la France d'outre-mer en Afrique. Et alors il est fait prisonnier des Allemands pendant la guerre. Oui. Et en 1942, donc, il est libéré. Mais en 1940, dans le Stalag, où il est prisonnier, il rencontre quelqu'un d'autre, très important, c'est Léopold Sédar Senghor.
Oui. Sa première rencontre en France a été avec Damas. Et Damas lui avait parlé déjà de Senghor et de Césaire. Et là, il a rencontré Senghor pendant 2 ans. Donc, ils ont pu... discuter, échanger, et Senghor lui a parlé déjà de ce qu'il avait déjà écrit. Et puis, à la libération, ils se sont retrouvés à Paris, et c'est à ce moment-là que Senghor lui a présenté Césaire.
Et c'est vrai que votre époux, Guy Tyrolien, va participer. Alors on le sait moins parce qu'on connaît Césaire, on connaît Senghor, mais il va participer donc à la négritude, ce qui va aboutir aussi au lancement de ce concept, la francophonie. Donc il est à l'origine, il participe à tous ces travaux.
Oui, il participe. Et à Paris, il a fait la connaissance d'étudiants africains, dont un, Sankalé, Sylvain Sankalé. Et c'est ensemble d'ailleurs qu'ils sont rentrés en Afrique. Avec Béville.
Béville, lui, il le rencontre au lycée. Donc c'est oui. Au lycée Carnot de Pointe-à-Pitre. Il rencontre Albert Béville, qui est Paul Niger, l'écrivain.
Qui n'était pas encore à l'époque Paul Niger, évidemment. Non, ouais. Mais Paul Niger lui a beaucoup apporté, parce que c'est Paul Niger, je crois, qui lui a fait découvrir les écrivains noirs américains.
Tyrolien va écrire assez vite de la poésie. Alors, il est l'auteur d'une poésie célèbre, « Prière d'un petit enfant nègre ». C'est une poésie qui raconte l'histoire d'un enfant nègre qui ne veut plus aller à l'école. De quelle école parle-t-il exactement ?
Eh bien, de l'école que nous avions en Guadeloupe, l'école française, qui nous parlait des choses qui n'étaient pas d'ici. Voilà. Seigneur, je suis très fatigué. Je suis né fatigué. Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq. Et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs. Mon mari était vraiment, je pense, un humaniste avant tout, et il avait confiance en l'homme. Et voilà, donc c'est un monde nouveau, c'est un monde qui a un avenir certain. Mon mari avait croyé fortement, et voilà.
Je crois que Guy Tyrolien a construit beaucoup de nos réflexions en Guadeloupe, et ça c'est important.
Très bien, merci beaucoup, merci Thérèse Tyrolien de nous avoir accueillis ici. Merci pour votre accueil chaleureux avec cette vue magnifique.
Merci d'être venu chez nous.
On est ravis.
Pour évoquer un peu quelques souvenirs concernant Guy.
On est ravis, on va continuer à faire vivre sa mémoire à notre façon. Merci beaucoup. Voilà pour ce reportage à Marie Galante à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance de Guy Tyrolien. Daniela Ferrière, vous êtes déjà allé sur cette île ?
Oui, je crois que c'était en 92 et j'avais reçu le prix Carbet qui m'avait remis si gentiment Édouard Glissant.
Ah oui.
Et qui dirigeait ce prix. Oui, 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 j'étais très heureux d'ailleurs de cette rencontre avec Glissant qui m'avait immédiatement tutoyé. Et son idée, c'est que tous les écrivains sont égaux. Et le lendemain, on m'a amené à Marie Galante dans cette île dont j'aimais beaucoup déjà le nom. Marie Galante.
Magnifique nom. À suivre, le dernier entretien de Marcel Gottlieb, qui fait partie aussi des grandes entrevues de l'histoire de la librairie francophone. Gottlieb était lui aussi, comme Daniela Ferrière aujourd'hui en plateau, un grand fidèle de cette émission. Ce sera après une rencontre musicale entre Gaëtan Roussel et Rachida Brakni, qui ont formé Les Disseurs, et Daniela Ferrière. Ce sera le club francophone tout à l'heure dans la dernière partie. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
Je rêve d'ailleurs féerique. Je rêve d'ailleurs atmosphérique.
Oui, ne t'hack ou ne t'ki. Ma hbabi, fajna. Fajna, farahba. M'da'arfin ou sahin.
Je rêve d'ailleurs de villes constellées. Je rêve d'ailleurs de pays safranés.
Éditeur, je rêve d'ailleurs sur votre radio francophone. Chaque semaine, nous vous ferons découvrir ou redécouvrir dans une nouvelle version les grands entretiens de la librairie francophone. La liste est longue, bien sûr, mais il a fallu en choisir quand même 9 pour cette saison estivale. On ouvre le bal avec un hommage. Un homme qui nous a quittés en décembre et qui était un ami de notre librairie. Un vrai fidèle, drôle, attachant, taquin et bienveillant. C'est Marcel Gottlieb. La dernière fois que l'on s'est vu, c'était chez lui, dans sa maison du Vésinet. Il avait évoqué cet été-là, l'été 2014, été de ses 80 ans. Et en sortant de chez lui, on avait eu un peu le vague à l'âme. On n'était pas vraiment sûr de le revoir et on ne l'a jamais revu. Voici la voix de Marcel Gottlieb.
La librairie francophone estivale, Emmanuel Queyrade.
Bonjour Marcel Gottlieb.
Bonjour Manu Gottlieb. Bonjour Manu.
Oui Manu, c'est parfait, vous pouvez m'appeler comme ça.
Ok.
Alors cet été aura été l'été de vos 80 ans, ce n'est pas un verre, c'est une information. Ouais. Encore que pour vous Marcel, le verre est souvent dans le fruit.
Là en l'occurrence, le verre il faisait 80 ans et le fruit c'était l'année 2014. Ça veut dire que avoir 80 ans, c'est pas si marrant que ça. Tout le monde pousse des hurlements d'enthousiasme. « Oh, Gottlieb, 80 ans !» Je vois pas ce que ça a de drôle et ce que ça a de jouissif d'avoir 80 ans. Moi, j'étais beaucoup mieux quand j'en avais 40, c'est-à-dire la moitié.
Vous étiez mieux comment ? Physiquement ou dans votre tête ?
Les deux.
Les deux, ah
oui.
Il paraît qu'on mûrit, que dans sa tête, ça va mieux après, avec l'âge.
Oui, mais ça, c'est des baratins de psychanalystes.
Est-ce que c'est par l'humour, par le dessin, que vous dissimulez vos failles et vos fragilités ? Justement, votre histoire familiale aussi, qui a été assez douloureuse, on peut le lire dans une autobiographie, on va en parler.
Oui, bien entendu que l'humour est un coup de main, une aide pour supporter le temps qui passe et les problèmes que ça implique. C'est une cure, c'est un médicament, et pour ma part, ça m'a toujours aidé.
Alors cette histoire de famille, Marcel Gottlieb, cette histoire de votre enfance, vous la racontez donc dans une autobiographie récemment rééditée par Dargaud, « J'existe, je me suis rencontré ». Qu'est-ce qui vous reste comme souvenir de cette enfance ? Est-ce qu'il y a des moments marquants comme ça qui reviennent en vous ?
De ma toute petite enfance, j'aime mieux pas m'en souvenir. C'est quand mon père est parti, quand je suis resté à la campagne, planqué, dissimulé, quand je portais, comme disait Gainsbourg, mon étoile de shérif. Non, là où ça a commencé à être pour moi formidable, c'est à partir de 13 ans. Parce que j'étais dans une maison d'enfants, pas loin d'ici d'ailleurs, à Verneuil, sur Seine. Là, j'ai été heureux pendant 3 ans, vraiment heureux.
Dans ce livre, Marcel Gottlieb, vous racontez aussi votre découverte du sexe. C'est très prude, Gottlieb est un homme pudique et prude, je sais que ça paraît incroyable, mais c'est ce que l'on constate à la lecture de votre autobiographie, et vous découvrez un jour, sous une table, les détails anatomiques de la femme. Et vous dites, c'était une bête immonde, un monstre d'une espèce qui m'était inconnue, tapis sous la table.
Mais même après, j'ai appris ce que c'était. En fait, c'était la bestiole dans Alien qui arrive sur la gueule. Oui. Sauf que là, ce n'était pas le visage.
Bon, vous vous sentez plus proche de la coccinelle, de Guéluron ou de Super Dupont aujourd'hui ?
Certainement pas Super Dupont.
Ouais. Étonnant.
Bien que j'aime beaucoup ce personnage. En plus, on était deux à travailler dessus. Mais mon personnage préféré, la coccinelle, c'est, vous l'avez cité.
Oui, c'est ça.
La coccinelle, c'est plutôt rigolo, plutôt du domaine du gag. Et pour rajouter un grain de sel, surtout dans la rubrique à braque. Oui. Guéluron, je crois que c'est un de mes préférés, justement parce que Guéluron est un mal-aimé pour moi.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Quand on me parle de mon travail, on commence tout de suite par la rubrique à braque. On oublie toujours Guéluron. Or, Guéluron est le premier personnage qui est sorti de moi. J'avais une facilité déconcertante à manipuler au sens de trouver des gags. C'est moi, c'était moi.
Si je vous dis Guéluron et Cador, vous pensez à quoi ?
J'avais eu l'idée de faire une page où les deux chiens se rencontraient. Je ne me rappelle plus ce qu'ils faisaient ensemble, d'ailleurs.
Ils parlaient de sexe. Guéluron demandait si Cador avait des relations sexuelles.
Ah ouais. plus du tout. J'avais été chez Binet, et il a fait les dessins, les siens. Moi, j'ai fait les miens, ou dans l'autre sens. Et puis, c'est le genre de... de gymnastique que j'adore faire. Quand on mélange des choses comme ça, j'aime bien ça.
Christian Binet, le créateur des bidochons de Cador, il a enregistré un message pour vous. Ah. Écoutez.
Il est à l'origine de ma carrière fulgurante que je fais depuis 40 ans, parce que j'étais en train de croupir dans un coin après, dans la Presse-Cato, après avoir été viré comme un malpropre, et j'étais un petit peu désespéré. J'avais son numéro de téléphone, mais j'ai pas jamais osé l'appeler, parce que c'était quand même quelqu'un qui était connu et que j'admirais. Donc, et puis en fait, c'est lui qui m'a appelé. Un jour, ça, le téléphone a sonné, et puis j'ai entendu un type qui travaillait justement, disait « Bonjour, je suis Marcel Gottlieb, je suis dessinateur de bande dessinée. » Et donc, il m'a invité à venir participer à son journal « Fluide glacial ». Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Marcel. Et c'est un des rares rédacteur en chef, puisque c'était le cas à l'époque, qui prenait encore le téléphone pour aller chercher des auteurs. Et ça, c'est... Donc voilà, bon, mon cher Marcel, écoute, je t'embrasse parce que franchement, je te dois beaucoup, hein, franchement, merci.
Il a plein de pognon et pas moi.
Non, vous en avez du pognon, Marcel. Non. Mais c'est vrai qu'avec les bidochons, il a pas mal de pognon, Christian. il écoute l'émission. Hein.
Ce qui m'étonne, c'est que je me souviens pas de l'avoir appelé, il me semble que je lui ai écrit une lettre.
On a reçu Gottlieb plusieurs fois et à chaque fois il nous racontait des histoires à bras cadabrantes. Un jour, nous avions organisé une rencontre entre Claire Bretéchet et lui. C'était les grandes retrouvailles de la période Pilote et l'écho des savanes. Ils avaient retrouvé sur notre plateau leur vieille complicité, sans filtre, sans aucune limite. Écoutez.
On était tous très libres. Pilote, oui. Sauf Marcel, qui voulait absolument dessiner des bites. Alors, Pilote, il ne pouvait pas. Parce
menteuse.
Que. C'est vrai.
Menteuse.
Comment ça, menteuse?
Non,
tu
raison.
Me laisses parler? Si, il est infernal. Alors, vous voyez la vie que j'ai eue à l'écho des savanes. Bon, alors, bref. Tout ça pour dire, je ne sais plus quoi, qu'il avait besoin, effectivement, il avait besoin d'un exutoire, ça, c'est sûr. Alors, sur ce plan-là.
Il vous aimait bien quand même. On a retrouvé un son de 1989, je crois, où Marcel parle de vous, Claire. Écoutez, c'est pas mal.
Oh elle faisait tout son possible pour qu'on la considère comme un mec, comme un homme qui dessine, comme un membre de l'équipe. Et je me souviens très bien que ça l'agaçait, par exemple, quand elle arrivait pour s'installer avec nous et que l'un d'entre nous se levait pour lui céder sa place, par exemple. Alors, elle le traitait de phallocrate macho. Cela dit, quand personne se levait, elle hurlait qu'on manquait de courtoisie et de galanterie. C'était très dur de... avec elle. Enfin, non, je plaisante.
Quel menteur, c'est effrayant.
Ça le fait beaucoup rire encore.
On ne peut pas se défendre.
Elle
ne
veut
pas se défendre contre ça.
Le reconnaître, mais c'est la vérité.
Oui, bien sûr.
Claire, vous la détestez toujours, notre époque?
De toute façon, j'ai toujours détesté les époques dans lesquelles j'ai vécu. Je pense que c'est un fond de caractère.
Oui, un dernier mot.
Tu as vécu au Moyen-Âge et tu as détesté.
Quel trou du cul.
Et voici le chanteur sénégalais Baaba Maal pour un titre en acoustique dans notre studio. Merci à vous d'écouter la librairie francophone estivale à travers le monde.
Futa sabuya na nande makalaju. tande la ñongol no tuono manda nya jam futa na tijima futa sabuya na yakore makalaju wi tande la ñongol no tuono manda nya jam futa na sabema futa sabuya na yakore makalaju aha tande la ñongol no tuono manda nya jam kalaju. Aha, kalaju, ablai, ablai, ablai eliman, ablai eliman, aha, 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 kalaju, aha, kalaju, ablai. Ablay monene Mariam Jaiba Debo pulo sla malema an Ngere bisaku Jehovah non gorgonda nonda a Wi tandele nyongol no tuono manda nya jam kala.
Baba Mal en version acoustique dans les studios de la librairie francophone avec Kala Adjo sur votre radio francophone.
Radio-Télévision Suisse, RTBF,
Radio-Canada, France Inter,
RFI, Radio France Internationale.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Guérade.
Chaque semaine donc, nous donnons une carte blanche à un auteur ou à un artiste que l'on suit et qui est fidèle à la librairie francophone depuis 10 ans. Celui qui inaugure cette séquence est parfois une énigme sans retour. Pour lui, les librairies s'apparentent à des cimetières. La poésie est un traitement médical contre le stress. L'odeur d'un café à Montréal le transcende. Il nous alerte sur le temps qui passe. Il additionne les cultures, les origines. Il donne à entendre le monde dans une générosité nécessaire.
Et il fait l'amour sans se fatiguer.
Dit-il.
C'est donc Dany Laferrière, hein, si vous n'avez pas suivi le début de l'émission, qui est avec nous, avec Rodney Saint-Éloi. Merci d'avoir accepté tous les deux cet exercice. On vous a proposé ce que l'on entend presque jamais à la radio, dans un cadre hors promotion d'un livre. Vous avez eu le choix d'un invité, d'un sujet, d'un coup de gueule, d'une découverte. C'est très libre, il y a un petit cadre, mais c'est assez libre.
Rodney Saint-Éloi. La vraie radio, sans rien vendre. Là pour être avec les gens.
Comme une déambulation.
C'est ça.
On est en train de se promener avec toi.
Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui vous lie tous les deux? Qu'est-ce qui vous rapproche?
D'abord l'affection.
Ah oui, c'est-à-dire puis l'amitié. L'amitié, parce que je pense qu'on a peur de le dire, on est des amis. Et ça veut dire beaucoup pour moi. Ça veut dire que quand il n'est pas là, je suis triste. Ça veut dire que quand...
Quand il est en retard, je suis fâché.
Quand il est en retard, et quand il rit, je ris aussi. Donc ça me fait vraiment plaisir qu'il existe. Et c'est ça, je pense que l'amitié, c'est on oublie de parler de l'amitié, mais je pense que c'est quelque chose de fondamental pour nous.
Qu'est-ce qui vous fait rire justement, tiens?
Ah ben le fait d'être vivant, juste là sous le soleil. C'est je suis très proche de Henri Miller comme écrivain dans ce sens-là, c'est-à-dire je sais très bien que le monde est rempli de bonnes et de mauvaises choses. Je ne fais pas la comptabilité de cela, mais tout content d'être là à la terrasse d'un café vers 2 heures de l'après-midi de n'importe quel après-midi d'été. À prendre un verre de vin avec un ami, les jambes allongées, à regarder passer les longues jambes nues des jeunes filles de l'été. Ça nous fait rire.
Ce qui est simple, c'est les plaisirs simples de la vie, c'est les choses simples. Moi, en fait, quand on fait la cuisine ensemble, on fait beaucoup à cuisine ensemble.
Oui, c'est vrai. Oui.
Donc, et puis c'est impressionnant parce qu'on sort d'un pays où les gens ont faim, où on est marqué par l'imaginaire de la faim. Donc, manger, c'est quelque chose qui nous fait rire, qui nous fait beaucoup rire.
Alors, Dany Laferrière, dans votre votre œuvre, on ressent toujours de l'humour et de la poésie. C'est très étrange parce que vous avez construit une œuvre comme ça entre le conte et la chronique, qui décrit des lieux, des sensations, des expériences. Vous parlez pas mal de vous, mais finalement c'est assez universel. Vous appréhendez le monde de cette façon-là. Et vous avez dit être d'un naturel heureux au point d'avoir du mal à éprouver de la douleur.
C'est vrai, c'est vrai. Ben, j'ai pas le temps pour la douleur. Et la douleur, pour moi, c'est quelque chose de passager. Et ça me rappelle ma mère qui disait cela souvent. Et quand elle avait mal aux dents et que je lui disais, mais prends un médicament, elle me dit, cette petite douleur m'empêche de penser à une plus grande. C'est vrai. Les douleurs intérieures, les blessures qu'on n'arrive pas à soigner parce qu'on ne les voit pas sont pires que les petits inconvénients de la vie quotidienne. Donc, oui.
Oui, vous avez dit, la moindre angoisse se métamorphose vite en bonheur. Quelle que soit la situation, si dramatique soit-elle, mon cerveau la transforme.
Oui, oui. Mais je sais pas, c'est chimique ces histoires-là. On peut pas, je peux pas dire quelqu'un qui est tout le temps malheureux, tout le temps désespéré, que c'est un manque de courage, qu'il ne retrouve pas son énergie, son aplomb. Non, je pense que c'est en dehors de nous. Moi, je suis né comme ça. C'est-à-dire cette capacité de passer outre.
Et cette résistance, est-ce qu'elle vous permet de mieux écouter le malheur des autres, alors?
Oui, oui, oui.
Ah oui?
Ah oui, oui, oui. Je suis une grande caisse d'enregistrement et du malheur des autres. Je l'ai été enfant. J'entends bien, je ressens bien. Oui, c'est la douleur des autres qui m'habite. Et c'est pour ça qu'elle est passagère aussi, parce qu'elle s'en va quand la personne s'en va.
Elle vous fait écrire aussi?
Elle me fait écrire aussi. Oui.
Alors ça, c'est quoi? C'est du voyeurisme, du coup, un peu?
Ah non, non, pas du tout. Une attention soutenue aux gens. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais adolescent, ma mère et mes tantes se désolaient que je ne m'intéresse pas assez à leur vie, que j'avais l'air de vivre dans un hôtel. Et un jour, je les ai rassemblées sous la galerie et j'ai raconté à chacune sa vie. Donc ce jeune homme adolescent, comme ça, un peu ahuri, un peu étourdi, en fait, entendait tout, retenait tout et savait tout.
Vous aviez tout consigné dans votre tête.
D'ailleurs, je les ai restitués dans mes livres.
Oui, tant qu'à faire, autant l'utiliser. C'est ça.
La librairie francophone estivale.
Vous parlez beaucoup du partage aussi, hein. L'art aussi de ne rien faire, l'art presque perdu de ne rien faire pour Dany, René Saint-Éloi. Ce partage, vous dites, il faut faire la fête dans la vie, on nous a monté les uns contre les autres, il faut se ressaisir, vous dites ça, il faut partager, ressaisir, il faut échanger.
Il faut voir toutes les épreuves auxquelles ce peuple a été confronté, comment on en est sorti. On en est sorti par le rire. C'est pas un rire innocent, c'est un rire parce que si on ne rit pas, on va simplement pleurer. Donc on choisit de rire, en fait, pour regarder, pour constater, pour voir le temps qui passe et pour aller vers une espèce d'élégance. En fait, j'allais dire quand tout tombe, ce qui reste, c'est ce rire, ce grand rire, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a rien de stable, tout est en train de, il n'y a que la mer et le grand rire.
Absolument, l'énergie vitale.
Oui. Dany Laferrière, à carte blanche aujourd'hui, c'est le rédacteur en chef, et il a choisi un grand titre québécois. On va faire un questionnaire de Proust Express. Première partie, là, tout de suite, et puis la petite musique. La musique qui vous fait tout oublier. Rodney.
Tiparis.
C'est le troubadour.
C'est pas le troubadour haïtien qui fait.
Dany Laferrière.
Ah, moi, c'est le rara. C'est-à-dire, c'est une musique qui vient généralement des montagnes et qui descend en ville. Les gens passent toute la nuit à courir dans la ville. Enfin, l'image que j'ai, l'image d'enfant. Et en jouant de la musique, imaginez, vous dormez, vous êtes un enfant. Et une fois, je me suis réveillé, j'avais 9 ans et j'ai suivi le groupe. Je me suis arrêté à temps au pied de la montagne, malheureusement d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que j'ai toujours été avec eux. Je suis resté, finalement, avec cette musique rara.
Qu'est-ce qui vous apaise?
Et qui m'apaise, moi?
Oui.
Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'apaise.
La musique, un peu?
Non, non, la lecture.
Ah, la lecture. Plus que la musique.
Faire dessiner et la lecture.
Ah, oui. René Saint-Éloi.
La tendresse et l'amour.
Oui, c'est sûr, ça apaise tout le monde, René, ça.
Oui, mais moi, particulièrement moi.
Bon, on ne va pas écouter du rara, mais je conseille à tout le monde, en tout cas, de découvrir le rara. Le groupe Arcade Fire, d'ailleurs, parfois en met dans ses musiques, il faut écouter cela. Vous avez choisi Robert Charlebois.
Oui.
On écoute un extrait de Lindbergh.
Alors, je suis parti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, be Pan-American. Je sais plus. Je suis rendu.
et moi, à propos et moi, suis rendu à dos du chameau. Je préfère mon Québec air, transfer Northern, Eastern, Western, puis Pan American.
Pourquoi cette chanson de Robert Charlebois, Daniela Ferrière?
Mais je trouve ça extrêmement moderne. Et je crois que ça a été fait au début des années 70.
Ouais.
Et il y a quelque chose d'extrêmement fort. C'est très surréaliste dans le sens
ouais, c'est
assez absurde. Ouais. Le texte m'a l'air presque d'une facilité étonnante, une liste de noms de compagnies d'aviation. Et brusquement, une jeune fille, Sophie, qui apparaît là et finalement se demande est-ce qu'on est dans son lit? Est-ce que le type rêve? Et ça ne tient à rien, mais tout est dans l'émotion.
Ouais. Alors, questionnaire de Proust, suite, votre plat préféré, Rodney Saint-Éloi?
Ricolé. Le plat national,
ricolé. Ah oui, ricolé. Qu'est-ce que c'est?
C'est riz aux haricots, c'est
d'accord.
Très bon.
Daniela Ferrière?
À moi, ça dépend. Le légume, c'est l'avocat. L'avocat. Un avocat, ça me suffit. Et on peut ajouter une mangue.
Oui, voilà, la mangue.
Et, oui, mais si on
qui
va
est en couverture
dans un plat,
de votre livre, au Québec, en tout cas sur l'édition québécoise.
L'édition de Poche en France aussi.
De Poche en France aussi, où l'art presque perdu de ne rien faire.
Il y a une mangue. Hein, ouais. Mais si on veut un plat, ce serait l'aubergine à l'étouffer.
La boisson, pour terminer, avec
l'eau. Vous êtes simple, je suis un homme simple, tu vois.
De l'eau,
simplement de l'eau.
Pas de rhum, rien.
Mais j'exagère, mais je sais me...
mais non, j'ai pas dit ça, j'ai rien dit.
J'exagère.
On se connaît
et
un peu,
l'eau,
mais...
me...
Je vous ai jamais vu boire d'eau.
Mais c'est ce que je fais là, je ne fais que boire de l'eau.
Non mais le rhum, le barbanco.
Eh oui, vraiment. Voilà un homme courageux.
C'est extraordinaire, comme poisson, nous n'en avons fait qu'une. Et nous avons fait la meilleure.
Et avec 5 étoiles.
Et avec 5 étoiles. Mais c'est vrai, il y a tellement de rhum un peu partout, dans toute la Caraïbe. Les Haïtiens n'en ont fait qu'une.
Bon, vous avez préparé donc une découverte culturelle, un engagement citoyen et un coup de gueule. La découverte culturelle pour vous, c'est quoi en ce moment, Dany?
En ce moment, c'est Louis-Philippe d'Alembert.
Ah,
Louis-Philippe d'Alembert,
dernier roman de
Louis-Philippe. C'est son dernier roman avant que les ombres s'effacent. C'est cette histoire extraordinaire où il raconte quelque chose d'assez courant, c'est-à-dire un roman sur la Seconde Guerre mondiale avec un camp de concentration. Et là, maintenant, il introduit l'ingrédient Haïti.
Oui,
et tout change.
Oui,
la participation haïtienne, premier pays à déclarer la guerre en Amérique à l'Allemagne, aux puissances de l'Axe et au Japon, et aussi à faire un décret de loi qui permettait à tous les individus poursuivis par les nazis de se réfugier en Haïti.
Ouais, c'est une vraie histoire, c'est une histoire incroyable, absolument magnifique, et vous pouvez retrouver d'ailleurs l'interview de Louis-Philippe d'Alembert dans la librairie francophone, en balado, diffusion, podcast, ça dépend où vous êtes, pour la formule. René Saint-Éloi, la découverte?
C'est le corps noir de Jean-Claude Charles, j'ai été étonné de relire ce livre qui parle du racisme, mais avec le contre-racisme, à la fois cette espèce de l'invention du corps noir, parce que vous me regardez là, vous pensez que je suis noir, mais je ne suis pas noir. Je ne suis noir qu'en présence d'un autre qui est d'une autre couleur.
Justement, tiens, à votre entrée à l'Académie française, Daniela Ferrière, on a souligné le fait que vous êtes le deuxième académicien noir à être élu à l'Académie après Léopold Sédar Senghor.
Oh,
vous l'avez
noir.
Pris comme... Pardon ?
Il est noir, je ne savais pas.
Vous l'avez pris comme une formule raciste ou comme un hommage, ça ?
Ah non, pas du tout. Je prends tout. Certains disent que je suis le premier haïtien, ou je prends le premier québécois, je prends le premier canadien, je prends le deuxième noir aussi.
Ouais.
Et non, je pense pas que... Non, les commentaires ne me touchent pas. Les commentaires disent un peu l'opinion, le regard de celui qui parle. Et bon, je prends tout.
D'accord. Le coup de gueule.
Le coup de gueule, c'est l'absence de courtoisie dans les relations humaines. Je parle pas du tout comme un vieil académicien qui recherche la courtoisie. C'est parce que nous sommes tellement bousculés dans le monde, que ce soit par la politique qui se fait à travers le monde, que ce soit par les grandes violences, les guerres, le racisme, on vient d'en parler tout à l'heure, l'antisémitisme et toutes sortes de choses, et qu'il nous faut vraiment un surcroît de courtoisie dans les relations personnelles.
Très bien, on termine très vite avec un engagement citoyen.
Eh bien, aller vers l'autre, l'embrasser.
L'embrasser.
L'embrasser, oui. Embrasser, le toucher.
D'accord.
Oui.
Ça, c'est un grand engagement citoyen, parce que je pense que les gens ont besoin d'être touchés, d'être aimés, de savoir qu'on est ensemble, qu'on est vivant.
Il y en a qui n'aiment pas être touchés, vous savez ça.
Parce qu'ils n'ont pas, ils ont été très mal touchés. On va changer ça. C'est l'été, on va changer tout ça.
Dany Laferrière.
Ah, moi, c'est la bibliothèque, c'est les livres. Pour moi, la plus grande misère, c'est de ne pas avoir de livres à lire quand on a tant envie. Beaucoup de gens en Haïti, par exemple, et dans beaucoup d'autres pays du monde. Et pour quelqu'un comme moi qui en reçoit à chaque fois à la rentrée toutes sortes de livres comme ça, gratuitement, ouais. Et quand je pense qu'il y en a qui n'ont pas de livres à lire, et moi, j'envoie mes livres en Haïti à des bibliothèques et mes livres, les livres de ma bibliothèque personnelle, parce que je trouve que si on a aimé quelque chose, c'est le livre d'abord qu'il faut laisser aller.
Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté cette carte blanche dans ce club francophone que nous formons tous à travers cette émission diffusée dans tous les pays francophones. Dany Laferrière, merci beaucoup. Vous êtes un immense fidèle, grand fidèle. Ça se dit pas, mais c'est pas grave.
Oui,
un immense fidèle.
J'aime bien. C'est-à-dire ma fidélité envahit l'espace.
Elle est immense. Merci Rodney Saint-Éloi.
Merci
beaucoup. On va se toucher, s'embrasser à la fin, d'accord?
Absolument.
Voilà.
Absolument.
Bon, Rodney Saint-Éloi, je conseille à tout le monde d'aller évidemment découvrir votre maison d'édition Mémoire d'Encrier. Merci à vous.
Merci.
Et on termine avec le bonus du club et deux histoires personnelles francophones racontées par nos invités, histoire que je découvre en même temps que vous tous. À vous l'honneur, Dany Laferrière.
J'étais à Paris, j'allais au Mali, à Bamako, et il y a un type en bobo qui est venu près de moi et qui m'a confié une valise. Il faut pas faire ça, c'est pas recommandé, mais il voulait absolument que sa valise aille avec lui, et j'ai dit oui. Et j'ai pris le truc, il a mis la valise sur le tapis et c'est parti. Et 5 minutes plus tard, il me dit, bon, alors on va à Dakar. J'ai dit non, je vais à Bamako. Alors là, ce grand homme immense s'effondre par terre en pleurant parce que sa thèse de mathématiques était dans la valise. Il n'y a qu'une copie. Alors il passe le temps à m'expliquer comment était sa valise, que j'avais oublié. Il dit que c'est une valise genre valise. Et il n'arrive pas à m'expliquer sa valise. Alors finalement, je suis allé à Bamako. J'ai dû attendre que tout le monde ait pris leur valise et pour voir sa petite valise. Et il est venu me trouver, chercher sa valise.
À Bamako.
3 jours plus tard, venant de Dakar, à Bamako. Mais cette idée est toute simple, c'est-à-dire que quand on est à côté de quelqu'un, il va sûrement au même endroit que nous.
Rodney Saint-Éloi.
J'étais à Dakar en janvier dernier, puis j'ai tourné dans la ville, j'ai rencontré quelqu'un qui ressemblait à un ami que j'ai connu à Port-au-Prince, que j'ai beaucoup fréquenté à l'école. Et puis, la difficulté, c'est qu'il parlait en wolof. Donc, je pensais que si c'était mon ami, il ne parlerait pas wolof. Et puis, à la fin de la semaine, il m'a dit « Pépi Koumonye ». Il m'a parlé en créole, c'est là que j'ai découvert que c'était l'ami avec qui j'étais à l'école. C'était comment, en parlant le wolof, j'ai détruit son identité. Mm-hmm. Je ne l'ai pas vu en ami. Et finalement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Un haïtien qui va à Dakar et puis qui se met à parler en wolof, comme si son corps avait changé. Mais je me doutais de quelque chose. Et à la fin, quand il me disait « Pépi », c'est un nom. En fait, c'est les gens de mon enfance qui me connaissaient quand j'étais petit, qui m'appelaient Pépi. Donc, c'était formidable, ça.
C'était le signe de reconnaissance.
Oui.
Merci beaucoup. Merci, Rodney. Merci, Dany.
Merci.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Leïla Kourousselikoua en France, avec les équipes de la RTBF, de la RTS, de Radio-Canada et de RFI. À la réalisation, Christophe Imbert avec Loïc Frapsos. La semaine prochaine, nous irons en Suisse dans le quartier de l'écrivain Max Loeb. Vous entendrez aussi Sylvie Testu, Édouard Glissant et puis David Fuenquinos sera dans le club francophone. Merci à vous d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.